La revue de presse internationale.
Cluzel.
Bonjour Guillaume. Dans les écoles de journalisme, on appelle cela cyniquement la loi du mort kilomètre. Ou dit autrement, plus un événement se situe loin de nous et moins il éveillera l'attention, de sorte que toutes les victimes ne se valent pas, puisque selon la même logique, plus elles semblent éloignées et moins elles susciteront d'empathie. À cela, on pourrait encore ajouter la triste loi de l'actualité où quand une catastrophe éclipse l'autre et pour peu que certaines violences paraissent qui plus est récurrentes, alors elles finissent même par ne plus étonner. Hier soir, à Kaboul, au moins 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées dans un attentat suicide contre une mosquée chiite. Tandis que les fidèles se préparaient à une assemblée pour cette nouvelle nuit de Ramadan, les assaillants, précise The Guardian, se sont fait exploser dans la cuisine de la mosquée, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Mais là où il y a 15 jours à peine, le précédent attentat faisant lui plus de 150 morts avait eu les faveurs des unes de la presse, ce matin, force est de constater que l'information a du mal à se faire une place au-delà du minimum requis. Et pourtant, cette attaque, la troisième revendiquée par l'EI depuis le mois d'octobre, semble bel et bien témoigner tout d'abord de ce que l'apparition de Daesh en Afghanistan alimente désormais des affrontements violents entre sunnites et chiites. Alors même que le pays à majorité sunnite avait été jusqu'ici épargné par ce type de phénomène. Sans compter que la veille de cet attentat, rappelle pour sa part The Atlantic, l'EI a également pris le contrôle de Tora Bora, l'ancienne forteresse d'Oussama Ben Laden. Une prise non seulement symbolique pour Daesh qui en a chassé ses rivaux talibans, mais aussi stratégique. Elle devrait en particulier nous interpeller sur la capacité de résistance de l'organisation qui, même si elle perd aujourd'hui du terrain dans ses grands bastions, Raqqa et Mossoul, ne devrait pas pour autant perdre sa base sociale du jour au lendemain et pourrait la même la faire prospérer en se repliant sur d'autres pays comme l'Afghanistan. Enfin, cette attaque devrait également alimenter un autre débat en toile de fond. Peut-on continuer aujourd'hui à expulser les demandeurs d'asile déboutés vers l'Afghanistan? Hier, l'organisation Human Rights Watch faisait encore état d'incertitude sur l'identité d'un adolescent expulsé de Suède et qui aurait possiblement trouvé la mort dans un attentat à Kaboul.
Lui était venu en Angleterre pour une vie meilleure et c'est en Angleterre qu'il a trouvé la mort.
Oui, après avoir survécu à l'insurrection syrienne et à la répression du président Bachar al-Assad, mais aussi à une campagne de bombardement de Daesh et enfin à la traversée périlleuse de la Méditerranée, Mohamed Al-Ajali est mort mercredi dans l'incendie qui a dévasté une tour HLM de Londres. Dans un portrait émouvant publié par The Telegraph, il est écrit que Mohamed, étudiant en ingénierie civile à l'université de West London, a été séparé de son frère dans les escaliers alors que tous deux essayaient d'échapper aux flammes. Rapidement, les messages de soutien se sont multipliés sur les réseaux sociaux où la mort de Mohamed a pris une dimension symbolique et ajouté un peu plus encore à la colère des Londoniens. Plusieurs internautes en particulier ont tenu à rappeler à l'ordre les médias comme The Independent qui n'auraient pas pris la peine d'écrire le nom du jeune homme dans leur titre, le présentant simplement comme un réfugié syrien. L'indignation également, précise de son côté The Daily Star, lorsque des idiots n'ont rien de trouvé de mieux que d'infester les réseaux sociaux de leurs commentaires racistes, en s'interrogeant pourquoi seuls des Britanniques, des vrais, ne faisaient pas partie de ce parc de logements sociaux.
Enfin, la haine libre, toujours et encore à l'œuvre, cette fois-ci en Bulgarie, Thomas.
Oui, depuis quelques jours, nous apprend le Courrier International, c'est une véritable série noire qui s'abat sur la classe politique bulgare. Quelques semaines à peine après la constitution du nouveau gouvernement, de troublantes photos de hauts responsables émergent en effet régulièrement des réseaux sociaux. Toutes montrent les intéressés en train d'effectuer le salut nazi. Le premier à s'illustrer n'est autre que le vice-ministre du développement régional. On le voit immortalisé en veste de cuir noir dans le musée Grévin à Paris face à deux officiers en cire de la Gestapo. Le bras levé, il effectue clairement le salut hitlérien. Arguant que la photo datait de 2008 lorsqu'il était à Paris en tant que touriste, il s'est défendu en expliquant que tout cela n'était qu'une plaisanterie. À la demande du Premier ministre, il a finalement dû démissionner. Et puis, ce fut au tour d'un haut responsable du ministère de la Défense, cette fois-ci de devoir s'expliquer sur la photo incriminée. Il pose, là encore, le bras levé, tout en fixant l'objectif devant un char allemand de la Seconde Guerre mondiale. Poussé lui aussi à la démission par le Premier ministre, il s'est finalement fait hospitaliser et c'est depuis l'hôpital qu'il s'est fendu d'une lettre ouverte présentant des excuses pour son geste. Depuis, l'homme est toujours fonctionnaire de la Défense, son ministre de tutelle ayant salué en lui un excellent professionnel. Enfin, Troisième cas en quelques jours à peine, celui d'un conseiller du président de la République sur les questions de sécurité, arborant une moustache à la Hitler et le bras levé. Là encore, la photo a fait le tour des médias. Lundi, sur la chaîne de télévision Nova, il a précisé qu'il s'agissait d'une photo sortie de son contexte, qu'elle provenait d'une fête masquée pour le réveillon et qu'il ne comptait pas démissionner. Bien au contraire, puisqu'il entend à présent saisir les organes compétents pour déjouer, je cite, cette tentative de discréditer l'institution présidentielle. De son côté, l'opposition, elle, tire désormais à boulets rouges contre le pouvoir en place, rappelant que le chef du gouvernement, au pouvoir pour la troisième fois depuis 2009, a cette fois-ci conclu une alliance inédite avec trois partis d'extrême droite.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.